الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد هذه الليلة ليلة الثالث والعشرين من شهر جمادى الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس السابع عشر من كتاب فقه الأدعية والأذكار. Nous sommes le 11 avril 2015 et ceci est le 17e cours de l'étude du livre La compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahum Allah. Et nous sommes dans les chapitres concernant les invocations et les formules à répéter pendant la prière. La dernière fois, nous avons pu parler de ce qu'il faut dire en prosternation, sujoud, en inclinaison, ruku', et certaines formules. Aujourd'hui, nous allons voir quelques formules quand on se relève du ruku'. Car nous, on connaît tous « Sami' Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ». Mais il en existe d'autres dans la sunna. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abu Huraira radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala idha qala al-imam sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, quand il se lève de l'inclinaison. On a déjà expliqué le sens de cette parole. Dites à ce moment Allahumma rabbana lakal hamd. Ô Allah notre Seigneur, à toi la louange. Car celui qui prononce ces paroles en même temps que celles des anges, ses péchés passés lui seront pardonnés. Si tu dis Rabbana walaka alhamd en même temps que al-malaika, car al-malaika il prie avec le groupe, et si tu dis Rabbana walaka alhamd en même temps que les anges al-malaika, Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne les péchés passés. Nous parlons ici des péchés mineurs. Les péchés se divisent en deux dans la gravité. Péché majeur, péché mineur. Le péché majeur, c'est celui qui nécessite forcément un repentir pour être pardonné. Et duquel une menace découle. Quand tu vois qu'Allah Azza wa Jal interdit quelque chose dans le Coran, cette chose interdite est un péché. Comment savoir si c'est un péché majeur ou mineur ? Tu regardes dans ce même texte ou un autre dans le même contexte de ce péché, s'il y a une menace. S'il y a une menace, c'est un péché majeur. Celui qui fait telle et telle chose, n'entrera pas au paradis, Allah sera en colère contre lui, Allah le maudira, les anges le maudiront, il sera détesté, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc, toutes ces choses-là sont des menaces. Elles veulent dire que ce péché cité est majeur. Le péché majeur nécessite forcément un repentir pour se voir expié et pardonné. Le péché mineur, c'est ce qui est moindre, ce qui est en dessous de cela. C'est toute chose interdite, mais qui n'est pas suivie dans les textes qui l'interdisent d'une menace. Et il ne nécessite pas forcément un repentir pour être pardonné. Il y a des bonnes actions, lorsqu'elles sont faites, elles effacent ces péchés. Parmi ces bonnes actions, dire « Rabbana wa lakal hamd » en même temps que « Al-Malaika ». L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit وَلَا يُهْمِلْ أَمْرَ هَذِهِ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Il existe aussi, donc nous disons رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ, mais il y a aussi رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Et ce waw marque une différence. فَإِنَّهُ قَدْ نُدِبَ الْأَمْرُ بِهَا فِي الصَّحِحَيْنِ. وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في معنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها. Quand on dit Rabbana walaka alhamd, le waw fait une différence, une distinction, et nous enseigne qu'il y a deux phrases. Rabbana est celle qui vient après waw, wala laka alhamd. Ici, ça voudra dire Rabbana, c'est-à-dire nous reconnaissons que tu es le Seigneur, que tu es le roi, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Tu as dans tes mains toutes choses. Ça c'est Rabbana. Fa'utifa ala hadha al-ma'na al-mafhoum min qawlihi Rabbana qawluhu wa laka al-hamd. Fatadammana dhalika ma'na qawli al-muwahhid lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Donc quand tu dis ensuite wa laka al-hamd, on l'a déjà vu à maintes et maintes reprises, al-hamd c'est le de louer Allah tabaraka wa ta'ala, on l'a déjà détaillé. Eh bien ici, ça devient, ou ça prend le sens de lahul mulk wa lahul hamd. Et ça, on le retrouve dans la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd. Rabbana wa laka alhamd, c'est le sens de lahul mulk wa lahul hamd. C'est-à-dire, à lui, la royauté, c'est lui qui possède toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et il est digne de louange. L'imam Muslim rapporte min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam idha rafa'a min ar-ruku'i qal Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'a samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Voici une nouvelle invocation à dire quand on se lève de l'inclinaison. L'imam dit Sami Allahu liman hamida. Le fidèle répond Rabba Allahumma Rabbana lakal hamd. Ça c'est la première partie qu'on vient de voir. Puis il ajoute Mil as samawat, c'est-à-dire une louange qui remplit les cieux. Wa mil al ard, la terre. Wa mil ama baynahuma, et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, et qui remplit tout ce que tu veux par la suite. C'est-à-dire que tu loues Allah tabaraka wa ta'ala et tu lui exprimes une louange qui a cette valeur, qui a une valeur telle qu'elle remplit le monde, elle remplit les cieux, elle remplit la terre, elle remplit l'espace. C'est la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle remplit toutes les créatures d'Allah azza wa jal, car Allah doit être loué. Autant qu'il a de noms et d'attributs, autant qu'il a de bienfaits envers ses serviteurs, il doit être loué, subhanahu wa ta'ala. Et on apprend que Allah est loué pour deux choses. Premièrement, il est loué pour ses noms et attributs sublimes et parfaits, subhanahu wa ta'ala. Il est loué parce que c'est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus généreux, le plus sage, le plus savant, le créateur, le pourvoyeur, le possesseur, le maître, l'unique. Il est loué pour ses noms et attributs. Il est loué car il voit tout, il entend tout. Il est loué car il guide qui il veut, il égare qui il veut, il donne à qui il veut, il reprend de qui il veut. Il est loué pour ses noms et attributs, sa perfection. Deuxièmement, il est loué, subhanahu wa ta'ala, pour la bienfaisance qui vient de lui pour ses serviteurs, les bienfaits qu'il donne. Et tu verras dans les textes du Coran et de la Sunna, à chaque fois que tu trouveras Alhamdulillah ou Lakalhamd ou les paroles semblables ayant attrait à la louange, tu verras à chaque fois qu'il est loué pour une de ces deux choses. Allah est loué, subhanahu wa ta'ala, d'une louange qui remplit les cieux, qui remplit la terre et qui remplit tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abd al-Razzaq a dit wa ala hadha فحمده سبحانه ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد. Nous disons donc que la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala englobe tout ce qui existe et même ce qui va arriver, ce qui va exister. Et il l'a pris de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Kitab al-Salah, le livre sur la prière. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Et donc cette invocation qui est rapportée par Muslim est à dire aussi quand on se lève de l'inclinaison. Rabbana lakal hamd. Donc ceci on en a déjà parlé. Mil as-samawati wal ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Une louange qui remplit les cieux, la terre et tout ce que tu veux d'autre par la suite après. Ensuite, vous l'avez, tu l'as l'invocation dans le livre ?
Non.
Donne-moi là. Traduction aussi n'est pas facile.
40.
Non. À contenance des cieux, à contenance de la terre et ce qui se trouve entre eux. Ô digne des louanges, ô digne d'éloges et de majesté. Ahl al-thana'i wal-majd. Ahl al-thana'i wal-majd. Ici, tu t'adresses à Allah Azza wa Jal en montrant qu'il est digne d'être loué et immensifié. Ahl al-thana, c'est-à-dire Ya Ahl al-thana, ô toi le digne de louange, d'éloge, toi qui es digne d'être immensifié, subhanahu wa ta'ala. Tel est le propos le plus véridique proféré par ton serviteur, homme, or, nous sommes tous ses serviteurs. C'est-à-dire que quand il dit ô toi qui es digne de louange et d'être immensifié, ces paroles-là sont les paroles les plus véridiques que puisse dire le serviteur. Et nous sommes tous tes serviteurs. Nous devons tous te louer comme tu le mérites. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ô Allah, nul ne saurait retenir ce que tu donnes et nul ne saurait donner ce que tu retiens. La fortune du riche ne sert à rien auprès de toi. Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Donc tu exprimes Allah Azza wa Jal qu'il est celui qui mérite d'être loué et que nous sommes tous ses serviteurs. Wa kulluna laka 'abd. Quand il dit « Nous sommes tous tes serviteurs », il y a une reconnaissance de la dévotion que l'on doit à Allah, la servitude, de l'adorer, de se soumettre à lui, de s'humilier, de se rabaisser devant sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Également, que ceci concerne l'ensemble des gens. « Wa kulluna laka 'abd ». Nous sommes tous tes serviteurs. Et être le serviteur d'Allah Azza wa Jal est possible de deux façons. Le serviteur qui est soumis de plein gré à Allah Azza wa Jal, c'est le croyant. Il est serviteur d'Allah car il lui obéit, il l'adore, il prie, il met en pratique ses commandements. Et le serviteur qui est obligé d'être le serviteur d'Allah, qui est un esclave d'Allah tant qu'il est une créature d'Allah, même s'il n'adore pas et n'obéit pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le sens de la parole d'Allah dans sourate Maryam. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Tous les habitants des cieux de la terre viendront au tout miséricordieux en serviteur. Nous sommes tous soumis à ce qu'Allah décrète, à ce qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala. Fa kulluna 'ibadun lillah 'azza wa jalla. Fa kulluhum معبدون مذللون لله سبحانه هو ربهم وخالقهم لا رب لهم ولا خالق سواه. Puis quand tu dis que personne ne peut empêcher ce que tu donnes ni donner ce que tu empêches, il y a la reconnaissance que le seul qui donne et reprend est Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي يقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع لا شريك له في شيء من ذلك. Nul ne partage avec Allah ses attributs. Seul Allah donne et reprend. Seul Allah Azza wa Jal élève et rabaisse qui il veut de ses serviteurs. فَمَا يَكْتُبُهُ سُبْحَانَهُ لِعَبْدِهِ مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ أَوْ بَلَاءٍ وَنِقْمَةٍ فَلَا رَادَّ لَهُ وَلَا مَانِعَ لِوُقُوعِهِ وَمَا يَمْنَعُهُ سُبْحَانَهُ عَنْ عَبْدِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالنِّعْمَةِ أَوْ الْبَلَاءِ وَالنِّقْمَةِ فلا سبيل لوقوعه كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Le Cheikh Abdel Razak dit: tout ce qu'Allah donne comme bienfait à son serviteur, personne ne peut le repousser. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal décide de ne pas donner à son serviteur, personne ne pourra le donner. Et donc tu vois que dans les invocations que tu prononces à chaque fois, elles ont un sens qui est tout le temps de reconnaître l'unicité d'Allah et le besoin que l'on a d'Allah et de personne d'autre que lui. Car même si tu cours aux portes de quiconque parmi les gens pour les supplier de te donner ce que tu désires avoir, si Allah a décidé que tu n'as pas cette chose, tu peux supplier qui tu veux, tu peux aller voir qui tu veux, tu n'auras rien. Et on voit la faiblesse du tawhid dans les cœurs de ceux qui ont recours à la sorcellerie, par exemple, à la voyance et à toutes ces choses-là, alors que seul Allah Azza wa Jal donne et reprend, et personne ne peut se mettre devant Allah. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si Allah t'atteint d'un mal, personne à part lui ne peut le dissiper. Et s'il te veut un bien, personne ne peut repousser sa grâce. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, personne ne peut l'empêcher. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Et ce qu'il retient et donc ne donne pas à ses serviteurs, personne ne peut le donner. وهو العزيز الحكيم. Et il est le tout puissant, l'immense et mon sage, سبحانه وتعالى. فهو سبحانه المتفرد بالعطاء والمنع وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع من عطاه منع من أعطاه فإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. Et donc il résume tout ce que vous venez d'entendre. Puis ولا ينفع ذا الجد منك الجد, c'est-à-dire que celui qui détient des richesses et des biens, ces biens ne pourront le repousser du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce dernier le mérite. Et ces biens ne sauraient le rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici pour cette invocation. Wa rawa al-Bukhari fi sahihihi an Rifa'ah ibn Rafi' الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. Un compagnon a dit: un jour nous prions derrière le prophète صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه من الركعة, quand il a levé sa tête de l'inclinaison, قال سمع الله لمن حمده, il a dit: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه, un homme derrière lui a dit: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ô notre Seigneur, à toi la louange, une louange abondante, bonne et bénie. فلما انصرف قال من المتكلم. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui a parlé, qui a dit cette parole? Ô Allah, à toi la louange, une louange abondante, bonne et bénie. قال أنا, l'homme a dit moi. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Il dit: j'ai vu 30 et quelques anges se précipiter, ils voulaient tous être le premier à inscrire cette parole. Subhanallah. قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Donc, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Je pense que vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Ensuite, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa il, répète.
Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi.
Naam. Qui est-ce qui répète?
Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi.
Ahmed.
Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi.
Qais. Cette invocation, apprenez-la, regardez comment elle est simple. Allez comme salam. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tu prononces cette parole, regarde ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où l'imam dit sami'a Allahu liman hamida, tu dis Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ali. Jazakumullah khairan. Le but c'est de les apprendre, pas simplement d'écouter et de rentrer et tout oublier. Le but c'est de les apprendre. Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. وَمَنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ مُوَفَّقٌ. Sans le moindre doute, celui qui prononce cette parole dans sa prière, il a reçu l'aide d'Allah عز وجل. حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. Cette parole signifie, c'est-à-dire, je le loue en lui exprimant cette louange qui est abondante, bonne et bénie. Allah تبارك وتعالى mérite d'être loué comme nous l'avons vu plusieurs fois. Et de lui vient le bien. Allah est loué, il n'est pas loué qu'une seule fois, car ses bienfaits ne s'arrêtent pas. Et ses noms et attributs aussi. Donc c'est pour cela qu'il est loué d'une louange abondante, bonne et bénie. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh a dit que les anges, dans l'explication, les anges se sont précipités pour écrire cette action dans les registres de bonnes actions. Car quand tu fais des actions, tes actions elles sont écrites, elles sont consignées, elles sont gardées. Les anges les écrivent. Quand ils ont entendu cette parole, plus de 30 anges qui se sont pressés, ils voulaient tous être le premier à retenir ces paroles. Et pourtant, regardez comment elles sont légères dans la langue de l'un d'entre nous. Le Cheikh a dit: ومن فوائد هذا الحديث أن على المأموم المبادرة إلى قول ربنا ولك الحمد عقب تسميع الإمام. Nous tirons donc de ce hadith que le fidèle, celui qui prie derrière l'imam, doit s'empresser de dire ربنا ولك الحمد. Dès que l'imam dit سمع الله لمن حمده, immédiatement ربنا ولك الحمد, il n'attend pas. وهذا مستفاد من حرف الفاء من قوله فقال رجل وراءه فإن الفاء تفيد التعقيب. Selon le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a entendu, le compagnon raconte que le prophète a entendu quelqu'un dire سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ, pardon, le prophète dire سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, puis le compagnon immédiatement a dit رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Il ne faut donc pas attendre. Et ceci est la sunna. ومن فوائد الحديث كثرة الملائكة الكاتبين ومحبة الملائكة للخير وأهله وتسابقهم وتنافسهم فيه. Également, parmi les leçons tirées de ce hadith, le grand nombre d'anges qui sont chargés d'écrire. Car ici, on voit qu'il y en avait 30 et quelques qui voulaient écrire. Également, l'amour que les anges ont pour le bien et les bonnes personnes, car on voit qu'ils font la course pour l'écrire, car ils aiment le bien, ils aiment les bonnes personnes, et ils font la course pour cela. وفي الحديث خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته هؤلاء الملائكة. Et dans le hadith, il y a une des choses que nul ne partageait avec le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qu'il voyait ce que nous ne pouvions pas voir, parmi les choses qu'il pouvait voir, les anges. Car il a pu les voir si bien qu'il a donné leur nombre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Kathir, dans son livre Al-Fusul Sirat al-Rasul, les chapitres dans la vie du messager, un chapitre où il parle des choses que nul ne partage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il cite justement qu'il pouvait voir et entendre des choses qu'autres ne pouvaient pas voir et entendre. Cheikh va citer un point. ثم هل هؤلاء الملائكة الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمة من الحفظة أو من غيرهم قولان لأهل العلم والأقرب والله تعالى أعلم أنهم غير الحفظة ومما يؤيد هذا ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر إلى آخر الحديث وفي لفظ فضل من كتاب الناس أو عن كتاب الناس وقد استدل به أهل العلم على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة والله أعلم. Est-ce que ces anges dont on parle, qui font la course pour écrire ces paroles, sont ceux qui sont chargés d'écrire les actions de chacun, qu'on appelle al-hafada, car chaque personne a un ange à droite qui écrit le bien, un ange à gauche qui écrit le mal. Est-ce que ce sont ces anges-là ou d'autres qui vont l'écrire? Il y a deux avis chez les savants. Le cheikh dit que le plus proche de la vérité est que ce ne sont pas les deux anges chargés, mais d'autres. Parmi ceux qui prouvent cela, le hadith qui est rapporté, qui est connu chez le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a des anges qui parcourent la terre à la recherche des gens qui évoquent Allah Azza wa Jal, pour témoigner. Donc ces gens-là, ces anges-là ne sont pas ceux qui écrivent. Et également, dans une variante de ce même hadith, que ces anges viennent pour écrire ce que les gens font. Donc ce ne sont pas les anges qui sont à droite et à gauche, mais plutôt d'autres anges. Parmi les formules à répéter pendant la prière. خرج الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Avant sa mort, quelques jours avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé le voile qu'il y avait dans son appartement pour qu'il puisse voir les fidèles en rang qui étaient ce jour-là derrière Abu Bakr radiallahu anhu, qui dirigeait la prière, le prophète ne pouvant pas se déplacer pour l'accomplissement de la prière à cause de sa maladie sallallahu alayhi wa sallam. Une fois ce voile découvert, il s'est adressé à ses compagnons en ces termes: ô vous les gens, il ne reste plus parmi les bonnes annonces de la prophétie que le rêve pieux que le croyant fait ou qui est fait pour lui. Puis il dit: certes, on m'a interdit de réciter le Coran en ruku'. Donc quand tu es en inclinaison, tu n'as pas le droit de réciter le Coran. Il dit: quant au ruku', immensifiez votre Seigneur, vénérez votre Seigneur. Donc vous savez, on a déjà vu comment Subhana Rabbi al-Azim, et on a vu que c'est la meilleure parole à dire en ruku'. Et quant à la prosternation, soyez actifs dans les invocations, car il est fort probable que les invocations soient acceptées. Le Cheikh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ce qui est propre à ces deux stations de la prière, ar-ruku' as-sujud, l'inclinaison et la prosternation, et ce qu'il faut faire durant ces deux positions. Il nous a montré qu'on ne doit pas réciter le Coran en ruku', car c'est une station où celui qui prie exprime à Allah tabaraka wa ta'ala son besoin et montre qu'il est faible devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est donc pas un passage où il convient de réciter le Coran, mais c'est un passage où il convient de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala et de lui témoigner la reconnaissance de notre faiblesse azza wa jal. Donc dans ce passage là il doit dire subhana rabbi al-azim, et nous avons déjà vu cela dans le chapitre correspondant à ce passage. Il doit donc exprimer ce qu'il ressent comme grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, du moins ce qu'il témoigne comme grandeur d'Allah Azza wa Jal, et que personne d'autre que lui ne le mérite. Nous avons déjà pu voir qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité que la meilleure parole que l'on peut dire, que l'on peut ou que l'on puisse, que l'on puisse dire étant incliné, Subhana Rabbi al-Azim, qu'on a déjà expliqué la semaine passée. On a déjà vu les versets. Alhamdulillah. Quant à la prosternation, c'est un état où le serviteur est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a. C'est-à-dire quand le serviteur est prosterné, il est plus proche de son serviteur. Ainsi invoquez-y, est plus proche de son Seigneur. Ainsi, invoquez-y Allah, c'est-à-dire abondamment, subhanahu wa ta'ala. Et qaminun an yustajab alakum, c'est-à-dire il est fort probable, ou peut-être, car la probabilité, c'est peut-être pas, ce n'est peut-être pas le mot adéquat, propice, peut-être.
Possible.
C'est un mot pour dire que il y a de fortes chances qu'Allah Azza wa Jal réponde à l'invocation. Car c'est le moment où il est le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les invocations que disait le prophète ou prononçait, sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prosternation, ma rawahu muslim an Aisha radiyallahu anha qalat, فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش. عائشة dit, un soir, une nuit, j'ai perdu le prophète صلى الله عليه وسلم dans le lit. Elle s'est réveillée et elle a vu qu'elle ne le sentait plus. Il n'était plus allongé à ses côtés صلى الله عليه وسلم. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. Je l'ai cherché avec mes mains. Donc, elle est dans le noir, elle ne voit pas. Radiallahu anha. Elle dit, quand ma main a pu toucher le plat de ses deux pieds, il était prosterné dans la mosquée. Car l'appartement de Aïcha est ici et la mosquée est juste collée. Le prophète, quand il sort de chez lui, alayhi salatu wasalam, il a une porte qui le donne directement dans la mosquée. Sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, ma main a pu toucher ses deux pieds. Juste de ce passage-là, on tire beaucoup d'enseignements. Dans la jurisprudence, dans la façon de prier, et dans la aqidah. Dans la jurisprudence, alaykoum salam, que la sunna, c'est de coller les pieds dans le sujoud. Quand tu es prosterné au sol, tu ne dois pas écarter tes pieds. Mais tes pieds doivent être collés. Quelle est la preuve? Dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha dit, elle a cherché le prophète avec sa main, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec une main, qu'est-ce qu'elle a touché? Ses deux pieds. Donc ça prouve que ses deux pieds étaient collés pendant la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, aqida, dans la croyance, الرد على الصوفية الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا حقيقيا يضيء في الطريق. هذا ليس بصحيح. La réfutation aux gens du soufisme qui disent que le prophète صلى الله عليه وسلم avait une vraie lumière qui se voyait à un point où quand il marchait dans la nuit avec sa lumière, eh bien il illuminait les routes et on voyait tout. Si cette parole était vraie, pourquoi Aïcha radiallahu anha a eu besoin de le chercher, hein? Et pour le trouver, il a fallu qu'elle le touche, sallallahu alayhi wa sallam. Ces paroles-là sont fausses. Par la suite, nous ne sommes pas encore entrés dans le hadith. Par la suite, elle a dit qu'elle a vu, voilà, entendu le prophète dire pendant le sujoud, et c'est là qu'on arrive à ce qui est en relation avec le chapitre, اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Il disait quand il était en prosternation, اللهم أعوذ برضاك من سخطك. Ô Allah, je cherche refuge auprès de ton agrément contre ta colère, ou bien ta satisfaction contre ton courroux. C'est-à-dire que tu cherches qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de toi et qu'il ne soit pas en colère contre toi. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. Je cherche refuge auprès de ton salut contre ton châtiment. Donc, tu demandes à Allah de ne pas te châtier. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. Et je cherche refuge auprès de toi contre toi. Allah, vous allez voir cette parole, ce qu'elle contient comme tawhid et comme croyance. La uhsi thana'an alayk, je ne saurais faire tes louanges comme il se doit. Anta kama athnayta ala nafsik. Tu es comme toi-même tu t'es loué. Subhanahu wa ta'ala. Sheikh a dit: wa qad dalla hadha al-hadith al-'azim 'ala annahu la mafarra ila Allah wa la malja'a minhu illa ilayhi. Ce hadith prouve que on ne peut fuir d'Allah tabaraka wa ta'ala que vers Allah azza wa jal. On ne peut pas fuir Allah. On ne peut fuir Allah que pour aller vers Allah, c'est-à-dire on fuit son châtiment pour sa miséricorde. On fuit sa colère pour sa satisfaction. Subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans un de ses ouvrages: il y a ce qu'on appelle al-firaru min Allah ou al-firaru ila Allah. Fuir Allah et fuir vers Allah azza wa jal. Allah dit dans le Coran: fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah. Dans ce hadith, on voit fuir d'Allah tabaraka wa ta'ala vers Allah. Comme le dit al-Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullahu ta'ala. Ibn al-Qayyim a dit: al-firar min Allah tahqiq lir-rububiyya. Quand nous disons fuir Allah c'est une mise en pratique du tawhid al-rububiyya, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les actes que seul lui peut faire, parmi lesquels il peut châtier, n'est-ce pas? Il peut punir, il peut se mettre en colère contre un serviteur. Eh bien, quand tu fuis Allah Azza wa Jal, tu fuis sa colère, son châtiment, tu mets en pratique que tu reconnais al-Rububiyya, que lui seul est capable, subhanahu wa ta'ala, de faire toutes ces choses. Wal-firaru ila Allah, et fuir vers Allah, tahqiqun li tawhid al-uluhiyya. Et fuir vers Allah est une mise en pratique de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, car tu fuis vers lui. Donc tu te soumets à lui, tu l'adores. Tabaraka wa ta'ala. Fatafirru min Allah ila Allah azza wa jal. Tu fuis d'Allah vers Allah, c'est ce qu'on retrouve dans le hadith. A'udhu bika minka. Naam. Je cherche refuge auprès de toi contre toi. Je cherche refuge auprès de toi, je fuis vers toi. Contre toi, je fuis de toi, subhanahu wa ta'ala. Et vous avez compris, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce que ceci veut dire. Ça veut dire qu'avec ces paroles, a'udhu bika minka, avec ces paroles, il a mis en pratique al-rububiyya wal-uluhiyya. Et avec celle qui vient juste après, al-asma wa sifat, les noms et attributs. Quand il dit, je ne peux te louer comme il se doit, tu t'es comme toi-même tu t'es loué. Ça, c'est les noms et les attributs d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, dans cette parole-là, là, tu es en sujoud, tu mets en pratique le tawhid avec ces trois branches ou ces trois catégories. Wa nawasil ibad ma'qudatun bi qada'ihi wa qadarihi. Al-amru kulluhu lah, wal-hamdu kulluhu lah, wal-mulku kulluhu lah. Donc nous voyons dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît sallallahu alayhi wa sallam que tout dépend de ce qu'Allah décide et décrète. Tout revient à l'ordre d'Allah, à lui la louange, à lui la royauté, le bien est dans ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers lui qu'il faut fuir. Il n'y a d'abri qu'auprès de lui, tabaraka وتعالى وبها الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. Et donc il y a aussi une demande de refuge auprès d'Allah contre le mal de tout ce qui peut arriver par sa volonté et sa force, عز وجل. طيب فالإذاعة فعله والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. Et on voit aussi une mise en pratique de la croyance au destin. Car tu reconnais que ce qui peut arriver, arrive si Allah le décrète. Ce que tu redoutes, tu sais que c'est Allah qui le décrète. Et pour te voir épargné de cette chose, tu sais que c'est Allah Azzajal qui le décrète aussi. Tout ça, on le retrouve dans A'udhu bika mink. Regardez les paroles qui sont... les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont remplies de tawhid, car il était celui qui connaissait mieux Allah que quiconque. Wa annahu la rabba ghayruhu wa la khaliqa siwa, nul autre seigneur et créateur que lui. Wa alaykum salam. Personne d'autre ne possède à part Allah tabaraka wa ta'ala le pouvoir de nuire ou de tirer profit, de donner la vie, la mort, de ressusciter. Tout ceci est propre à Allah, nul ne le partage avec lui, Azza wa Jal. Et à la fin de cette invocation, quand il exprime que seul Allah est capable, car il dit tu es comme tu t'es loué toi-même, subhanahu wa ta'ala, il y a ici la perfection des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que ces noms et attributs sont tellement parfaits et complet qu'aucune de ces créatures ne peut faire ce qu'il doit être fait vis-à-vis des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala comme louange pour Allah azza wa jal. Parmi les autres invocations à prononcer durant la prosternation, alaykum salam marawahu muslimun fi sahihi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. Le prophète صلى الله عليه وسلم disait dans ses invocations en prosternation, oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Tu as la traduction ici? Ça va? Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés, le petit et le grand, le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Pardonne-moi tous mes péchés. Cette parole est claire. Aïdhunu bi jami'an. Car en réalité, dans la phrase arabe, ce n'est pas un pluriel que nous avons, mais c'est un singulier. Il dit « pardonne-moi mon péché ». Mais il existe une règle qui dit que quand le singulier est annexé, ici il est annexé, mon péché, dans la langue arabe, dans les règles des textes du Coran et de la Sunna, quand le singulier est annexé, il prend le rôle du pluriel. C'est-à-dire, mon péché signifie ici mes péchés. Mon péché signifie tous mes péchés. Taïb. Ensuite, diqqahu wa jillah, le petit, le grand, awalahu wa akhira, wa alaniyata wa sirra, le premier, le dernier, l'apparent, le caché. Donc ceci montre plus en détail ce qui a été cité déjà dans cette première phrase, tous mes péchés. Lesquels ? Le petit, le grand, l'apparent, le caché, le premier, le dernier. Le shir dit thumma inna bayna sajdatayn ruknan la budda minhu fi s-salah wa huwa al-jalsatu bayna sajdatayn. Ensuite, il y a entre les deux prosternations un pilier de la prière qui est indispensable. Un pilier de la prière qui est indispensable, qui est l'assise entre les deux prosternations. Wa qad shuri'a fihi min ad-du'a ma yaliqu bihi wa yunasibuhu. Et même dans cette position, des invocations sont légiférées par Allah. Elles conviennent à cette position. Wa huwa su'alul 'abdi al-maghfirata war-rahmata wal-hidayata wal-'afiyata war-rizq. Et elle consiste à ce que le serviteur demande à Allah le pardon, la miséricorde, la guidée, le salut, la subsistance. Qui, ces choses-là, réunissent en elles les deux biens, celle du bas monde et celle de l'au-delà. Le hadith est le suivant, il est rapporté par l'imam Abu Dawud et authentifié par l'Albani rahimahullah. An Hudhayfah radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu bayna sajdatayn rabbi ighfir li rabbi ighfir li. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant l'assise entre les deux prosternations rabbi ighfir li rabbi ighfir li. قال الشيخ أي أنه صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء الدعاء بين السجدتين لا أنه يقوله مرتين فقط. C'est-à-dire qu'il répétait cette invocation entre les deux prosternations رَبِّ اغْفِرْ لِي plusieurs fois. Ça ne veut pas dire deux fois. الشيخ سليمان ابن سليم الله الرحيلي qu'Allah le préserve, un savant de Médine, dans le commentaire du livre Adab al-Mashi ila Salah, le comportement à avoir en allant à la prière, du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, a dit à ce passage-là que les Arabes avaient pour habitude, quand ils voulaient dire d'une chose qu'elle était faite à plusieurs reprises, ils la répétaient deux fois, ce qui est le cas ici. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Non pas pour dire qu'il le disait deux fois, mais pour dire qu'il le disait plusieurs fois, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, et ce qui est connu, c'est de le dire de façon impaire. Donc au minimum trois fois, ou cinq, ou sept, ou même neuf et plus en fonction de la longueur de la prière de l'un d'entre nous. Donc ça c'est le minimum à connaître. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني واهدني وارزقني. Le prophète صلى الله عليه وسلم, donc dans ce hadith, disait entre les deux prosternations, oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, assiste-moi, fais-moi grâce, procure-moi ma subsistance et élève-moi. Donc ça aussi c'est une sunna. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wa'afini wahdini warzuqni. Qui est-ce qui va l'apprendre pour la semaine prochaine? Qui est-ce qui s'engage à apprendre cette invocation pour la semaine prochaine? Nu'man, Abdullah, Soufyan, Ahmed. Qui est-ce qui s'engage à apprendre? Mohamed. J'ai oublié ton nom.
Marwan.
Apprenez-la, inshallah ta'ala, pour la semaine prochaine. Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, wa'afini, wahdini, warzuqni. On demande donc à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette parole de pardonner et de faire miséricorde. Pardonner al-maghfira qui est traduit par le pardon, huwa sitru dhanb wa tajawuzu an. En réalité, c'est qu'Allah azza wa jal couvre le péché et décide de ne pas châtier celui qui l'a commis. Alaykum salam. Car dans le mot rafara, il y a la notion de couvrir et de cacher. C'est pour cela que le casque que le guerrier porte se nomme en arabe al-mirfar. Innahu yasturu ar-ra's. Wal-maghfira anna Allah azza wa jalla yasturu 'abda wa yatajawazu 'anhu. Et le pardon, c'est qu'Allah azza wa jalla couvre son serviteur et ne le punit pas pour son péché. Ar-Rahma, la miséricorde. Quand tu cites Ar-Rahma seul, إذا ذكرت الرحمة بمفردها فتقول يرحمك الله. Si tu dis par exemple qu'Allah te fasse miséricorde avec le mot Rahma, ici le mot Rahma aura le sens de يغفر لك ما مضى من الذنوب ويوفقك في المستقبل. Qu'Allah te pardonne ce que tu as fait dans le passé et t'accorde son aide pour l'avenir. Mais quand Ar-Rahma est cité avec Al-Maghfira, إذا ذكرت الرحمة مع المغفرة فالمغفرة لها معنى الستر والتجاوز والرحمة التوفيق في المستقبل. La maghfira sera le pardon et la rahma sera l'aide, l'assistance d'Allah Azza wa Jal pour l'avenir. Ça c'est ce qui est cité par les savants dans le commentaire de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, comme on l'a déjà vu. وسؤال المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب. En demandant la maghfira, il y a la demande de la protection contre les effets néfastes des péchés. وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان. Demander la miséricorde revient à demander le bien. وسؤال الله أن يجبره فيه سد حاجته. Quand tu dis واجبرني, c'est-à-dire que tu demandes à Allah Azza wa Jal de venir subvenir à tes besoins. Wa jabru kasrihi wa an yurd 'alayhi ma dhahaba min al-khayr wa an yu'awwida. Et aussi de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te rendre ce que tu as perdu. Quand tu dis wajburni, tu demandes à Allah azza wa jal de donner ce dont tu as besoin et te rendre aussi ce que tu as perdu. Wa su'al al-'afiyah فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن. وعافني, quand tu demandes le salut, il y a une demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde le salut et donc te préserve contre les maux, les troubles et te préserve des discordes et de toutes ces choses mauvaises. وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. En demandant la guidée, tu viens à demander à Allah Azza wa Jal la réussite dans ce bas monde comme dans l'au-delà. وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام والشراب وما به قوام الروح من العلم والإيمان. En demandant la subsistance, الرزق, il y a la demande à Allah Azza wa Jal qu'il te donne ce dont ton corps a besoin pour tenir, comme nourriture et boisson, et ce dont ton âme a besoin pour tenir, comme science et foi. Car tout comme la subsistance laisse entendre ce que l'on mange et boit, elle laisse aussi entendre ce que l'âme et le cœur mangent et boivent, qui est al-ilm, la science, wal-iman, et la foi. فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعا لأصول السعادة محيطا بأبواب الخير مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة فما أعظمه من دعاء وما أحسن إحاطته وجمعه. Donc c'est une invocation qui réunit en elle énormément de bien, qu'il soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et regardez comment elle est facile. Rabbi ghfirli wa arhamni wa afini wajburni wa afini wa ahdini warzuqni wa naqul Allahumma ghfir lana warhamna wajburna wa afina wa ahdina warzuqna subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.